cold box dead.
Alors, vous venez d'entendre un extrait de Caracol, le nouveau disque de l'ancien groupe Duba Caracol. Alors, juste avant la pièce, on parlait, j'étais avec Evelyne, et on parlait de la pauvreté, de la pauvreté en général, je dirais, là, du système d'aide sociale. Mais là, on va parler plus particulièrement de la pauvreté chez les femmes. Dans le fond, il y a plusieurs manières d'aborder le problème. Les femmes sont plus pauvres que les hommes depuis longtemps. Les causes sont différentes, peut-être plus historiquement enracinées, je devrais dire. Fait que je pense que tu avais plusieurs manières de nous présenter ça.
Oui, en fait, je pense que les causes de la pauvreté, elles sont dans le jeu du capitalisme. Mais à ça, il faut ajouter, quand on parle de la pauvreté chez les femmes, il faut cibler le jeu du capitalisme en lien avec celui du patriarcat. Et là, c'est ces deux systèmes-là qui se mettent ensemble pour positionner les femmes majoritairement au bas de l'échelle. Puis un des angles qu'on peut, on peut aborder ça sous différents angles. Les femmes sont majoritairement plus pauvres, mais elles sont aussi durablement plus pauvres. Donc,
elles restent pauvres plus longtemps.
C'est ça. Ouais. Donc, elles ont des revenus majoritairement plus bas, mais elles restent pauvres aussi plus longtemps. Puis donc, c'est ça. Au niveau des causes, il faut aller vraiment dans les grands systèmes qui se mettent ensemble c'est en fait des règles qui mettent des bâtons dans les roues. Mais concrètement, je sais pas pour vous, mais moi j'ai envie d'aller au-delà des slogans anticapitalisme, antipatriarcat, et d'être un peu plus concrète. Et si on regarde vraiment au niveau des causes, c'est ça, il y a tout plein de règles particulières qui nous permettent d'illustrer là, les liens entre capitalisme et patriarcat qui font que la pauvreté frappe plus durement puis plus durablement les femmes. On peut regarder au niveau de l'aide sociale encore, comme on en parlait tout juste avant la dernière chanson, mais il y a aussi de la pauvreté au travail. Donc, si on regarde à l'aide sociale, d'abord, il y a tout plein de règles qui font que des règles qui sont discriminatoires et qui font que ça c'est encore plus difficile pour les femmes de s'en sortir. On peut citer par exemple des mesures des mesures de coupure pour pension alimentaire ou des mesures pour partage de logements des logements familiaux qui illustrent bien comment c'est les systèmes en place qui sont discriminatoires. Si on prend par exemple la mesure de coupure pour pension alimentaire, pour l'expliquer rapidement, en fait, il faut savoir que depuis 1997, les pensions alimentaires pour enfants sont défiscalisées. Ce que ça veut dire, c'est que les montants de pensions alimentaires qui sont versés pour les enfants, ils sont pas imposés ni pour ceux qui versent la pension, ni pour celles qui la reçoivent pour leurs enfants. Pourquoi c'est défiscalisé? C'est suite à une décision de la Cour suprême du Canada parce que il a été reconnu à ce moment-là que la coupure, que la pension alimentaire pour enfants, c'est un revenu qui appartient aux enfants et non aux parents, en fait, à la mère qui la reçoit pour ses enfants, même si 80% des chefs de famille monoparentales sont des femmes. Mais malgré ça, malgré que pour l'ensemble des travailleurs, travailleuses du Québec, la pension alimentaire soit défiscalisée parce que c'est pas un revenu, malgré ça, les femmes à l'aide sociale qui reçoivent des pensions alimentaires pour leurs enfants, elles voient couper leurs prestations comme si elles déclaraient un revenu. Donc, c'est vraiment une discrimination sur la base du fait qu'elles sont à l'aide sociale et non au travail.
C'est leur prestation à elles, là, comme prestataire d'aide sociale qui est coupée directement d'un montant là, qui correspond à, en tout cas, à une certaine portion du montant de pension alimentaire qui est reçu là, pour les enfants, dans le fond.
C'est ça. En fait, elles peuvent garder 200$ par mois par enfant. Et après ça, c'est leur chèque à elles qui est coupé. D'une part, on sait très bien qu'un enfant, ça coûte plus que 200$ par mois. Mais en plus, c'est vraiment le système québécois qui a reconnu que ça, c'était un revenu pour les enfants et non pour les parents. Mais malgré cela, elles sont coupées, contrairement à toutes les autres. Si on regarde aussi la coupure pour partage de logement familial, encore une fois, ça, c'est une règle qui a été généralement abolie. Il y a quelques années, avant, il y a quelques années, le gouvernement prétextait que ça coûte moins cher vivre à plusieurs que de vivre seul. Donc, les prestataires d'aide sociale qui vivaient à plusieurs avaient ce qu'on appelait une coupure pour partage de logement. Suite à de nombreuses pressions, puis suite à la reconnaissance du non-sens de cette mesure-là, ben la coupure pour partage de logement a été abolie. Mais tout de suite après, le ministère a introduit à même la loi sur l'aide aux familles et aux personnes et aux familles une coupure pour partage de logement familial. Donc ça, ce que ça veut dire, c'est que les personnes à l'aide sociale qui vivent avec un parent qui lui n'est pas à l'aide sociale voient leur chèque coupé de 100 $ par mois. Donc on tombe à 400 $ par mois à peu près. Si donc ils vivent avec un de leurs parents.
Bon, c'est la fameuse clause Tanguy. On avait appelé ça pour inciter les jeunes à partir dans le fond du foyer familial. Sauf que ça a des effets pervers,
ben,
cette clause-là.
En fait, c'est plus que des effets pervers. Ce qui a été démontré, c'est que c'est absolument pas des jeunes qui collaient chez leurs parents qui avaient droit à la prestation d'aide sociale, mais c'est plutôt des aidants naturels ou des aidantes naturelles majoritairement qui
s'occupent de leurs parents âgés.
Qui, parce qu'ils devaient s'occuper soit d'un parent âgé ou d'un parent malade, pouvaient pas aller sur le marché du travail et donc se retrouvaient l'aide sociale, et parce qu'ils compensaient en fait les coupures dans les services sociaux et le système de santé, ben c'est eux qui se voient coupés. Et ce que ça fait, ben c'est que c'est majoritairement les aidantes naturelles qui sont touchées par cette mesure, et donc encore une fois majoritairement des femmes. Donc c'est juste deux exemples, mais c'est pour montrer qu'il y a toutes sortes de règles comme ça qui font que c'est le système qui crée de la pauvreté. C'est des systèmes qui sont générateurs de pauvreté. Et pour ça, il faut aller, pour se rendre compte de ça, il faut aller au-delà de nos préjugés.
Alors, c'est fort intéressant. Evelyne, on continue juste après la pièce musicale de Trouble Over Tokyo, une pièce qui s'appelle The Liar.
It took over, and I looked at others to put things right. Ooh, I can't believe that after all the progress I've made, I fell deeper in the coma that I think I'm starting to take some breath. But every time that I wake, it's like I only wake into a dream. Ooh, everything that I break reforms itself, it reforms itself, it reforms itself. Talking to myself for so long. Ooh, and is my music only a way for me to ignore that my freedom is my wisdom, is my movement, is my kingdom, and my kingdom is dependent on a treason. So it's London that it lights up every corner, every liar, every mourner, every cancer, every injured, every killer, every hinder, every believer, every denier, every consumer, every buyer. But every time that I wake, it's like I only wake into a dream. Ooh, everything that I break reforms itself, it reforms itself, it reforms itself. And everything that I lose gets found again and dusts itself off clean. Ooh, and every time that I choose, I forget again, I forget again, I forget again. Every time that I wake, it's like I only wake into a dream. Ooh, and everything that I break reforms itself, it reforms itself, it reforms itself. I forget again.
Alors, vous écoutez toujours Ainsi Quatel sur les ondes de CKIA FM 88,3. Alors, juste avant la pause, on parlait des règles discriminatoires ou des normes, des programmes que le gouvernement imposait puis qu'il y avait des effets discriminatoires envers les femmes qui augmentaient la pauvreté des femmes, sauf que ces règles-là discriminatoires, on en retrouve aussi sur le marché du travail, qui sont propres, dans le fond, au capitalisme, si on veut.
Mm-hmm. Alors, ben oui, tout à l'heure, par rapport à l'aide sociale, on parlait beaucoup de préjugés, mais en fait, on a tout plein de préjugés sur la soi-disant paresse des pauvres, puis la tout aussi supposée ardeur au travail des riches. Mais à travers l'histoire du capitalisme, le travail puis l'argent ont en fait très rarement été liés. Qui peut vraiment croire, par exemple, que les paysans travaillaient moins que le seigneur qui volait leur récolte, ou bien que les mineurs travaillaient moins que le propriétaire de la mine dans laquelle ils se faisaient exploiter? Alors, c'est beaucoup plus une histoire de l'exploitation qu'une histoire de travail et d'argent. Le travail et l'argent sont encore moins liés quand on croise l'histoire du patriarcat à l'histoire du capitalisme.
Puis on peut imaginer, dans le fond, le travail non reconnu des femmes là-dedans pendant toute cette période-là.
Exactement. On peut même pas, je veux dire, ça doit être absolument hallucinant le nombre d'heures ou tout le travail que les femmes ont accompli à travers l'histoire sans être payées. Puis du travail invisible, il y en a encore. Alors, c'est pour ça qu'il faut bien distinguer travail et emploi. Puis c'est cette distinction-là que souvent les règles du marché du travail font pas, ce qui fait que c'est discriminatoire à l'égard des femmes. On a juste à prendre la façon dont on est socialisé. Ça peut d'abord être une cause importante de pauvreté parce que c'est encore très majoritairement les femmes qui s'occupent des enfants, des aînés, des tâches ménagères, etc., etc. Alors, c'est quoi le lien avec la pauvreté, vous me direz? Ben, s'occuper des enfants, par exemple, ben, ça veut dire que les femmes occupent encore une grande partie de leur temps à des tâches qui sont indispensables pour notre société, mais qui sont ni payées ni reconnues. Et quand on n'est pas payé, ben, vous conviendrez qu'on a plus de chances de vivre en situation de pauvreté. C'est un peu logique.
C'est une cause et conséquence. Hein? On peut penser aussi que ce rapport-là au travail non payé ou mm-hmm. aux efforts que les femmes font qui sont pas reconnus, ça s'est aggravé avec les dernières années parce que on a été témoin des coupures dans le réseau de la santé. On parlait des aidantes naturelles tout à l'heure. La difficulté à avoir des places en garderie, tout ça, c'est des choses qui sont passées récemment qui peut aggraver ça, dans le fond.
Tout à fait. Puis même si on recule un peu plus loin, il y a aussi toute la question on peut pas être contre là, mais toute la question de l'évolution des structures familiales, le fait que les femmes fassent encore une majorité du travail du travail invisible non payé, ben ça elle pouvait avoir accès à certaines ressources tant qu'elle restait mariée. Et là, ben, il y avait toute la question du contrôle des ressources qui était hyper problématique puis hyper discriminatoire et tout. Mais là, en fait, les changements dans les structures familiales, les divorces et séparations se retrouvent dans les premières causes de pauvreté des femmes parce que le fait qu'elle s'occupe majoritairement du travail invisible pendant la relation ou pendant le mariage, ben ça fait que quand cette relation-là se termine, elle se retrouve sans être sur le marché du travail. Et ça, ben tout
et
ça.
Et chef de famille monoparental en assumant la majorité des tâches liées à l'éducation et tout ça.
Et tout ça, ben ça se répercute. On parle de distinction entre travail invisible et emploi, mais ce travail invisible-là influence aussi l'emploi rémunéré. Ça se répercute directement sur le marché du travail. Au Québec, par exemple, il y a 70% des emplois à temps partiel qui sont occupés par des femmes. Tout simplement parce que les femmes travaillent trop pour travailler. Dans le fond, elles travaillent trop en dehors des emplois rémunérés. Donc, elles se retrouvent à devoir faire le choix souvent de prendre des emplois à temps partiel. Et qui dit... ben travail à temps partiel dit paye à temps partiel aussi. Puis c'est pas seulement une question de sous parce que les emplois atypiques ou précaires ou à temps partiel offrent pas les mêmes protections sociales ni les mêmes avantages sociaux que les emplois à temps plein. Puis les femmes sont d'autant plus touchées par exemple par l'augmentation des heures exigées pour avoir accès à l'assurance chômage ou par toutes sortes de mesures que ce soit à l'assurance chômage ou à l'aide sociale.
En fait, c'est des choix que les